Chiffre 88. Plus doux, 88. Trop sec. Trop dur, trop sec. C'est vous qu'on suit, maestro.
On dit oui, chef, ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de Gustav Mahler, de Zidane, de Georges Bergis, de Stockhausen et même de Margaret Thatcher. Avec Alix Delaporte qui signe le dernier coup de marteau, deuxième long métrage pour la réalisatrice d'Angèle et Tony, même casting, Clotilde Esme et Grégory Gadebois, cette fois dans une histoire d'adolescence entre match de foot et direction d'orchestre, Benoît Lagane.
Et Alix Delaporte, ex-reporter d'images, spécialiste du portrait, du parcours sportif et de Zinedine Zidane, poursuit avec ce nouveau film son brillant cinéma de gestes.
À 19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, ce sera le chef d'orchestre Maxime Pascal. 19h35, plateau théâtre musical avec Antoine Jean pour trois opéras, un répertoire contemporain, Manu Farine.
Portrait d'un metteur en scène et producteur qui, dans les pas de Georges Apergis, travaille le théâtre musical comme genre ou comment interroger la musique par la scène.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez qui s'ouvre, comme toujours, sur le son du jour.
Un critique a qualifié La Belle et la Bête de grande aventure visuelle, démonstrative d'un savoir-faire français de haute volée. Mais il s'est arrêté en chemin, il aurait dû dire un savoir-faire français made in Germany. Voilà le problème. Vous le savez, les plus gros films, ceux qui génèrent le plus de décors ou sont fabriqués à l'étranger. On essaie de casser les studios. Alors je ne comprends pas très bien comment on va venir tourner en France s'il n'y a plus de studio. Voilà, il faudrait vraiment essayer de sauver ce studio de Brie-sur-Marne qui est quand même le studio qui est le plus... Ah, quand même.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir à tous, bonsoir Laurent.
Bonsoir à tous.
On le refait. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, il date un peu, il y a 3 semaines.
Exactement, les Césars. Alors celui qu'on entend là, c'est le chef décorateur Thierry Flamand qui a remporté la statuette tant désirée pour La Belle et la Bête. Et au moment de son discours, il prend à partie la ministre Fleur Pellerin qui est juste en face de lui pour lister les raisons qui font qu'aujourd'hui le cinéma français se délocalise. Et vous l'avez entendu, il demande à ce que les studios de Brie-sur-Marne, qui sont parmi les préférés de la profession, restent ouverts. J'y avais consacré un dossier, vous en rappelez peut-être, ces studios qui sont extrêmement utilisés, avaient été vendus par leur propriétaire et exploitant, le groupe Euromédia. Il était donc totalement menacé de fermeture. Et après une mobilisation intense de la profession, aujourd'hui, c'est le soulagement, puisque samedi, le propriétaire, le promoteur Nemoa de ce site, a trouvé un nouveau locataire en la personne de la société Transpalux, qui est spécialisée dans le matériel de location pour le 7e art, donc dans la décoration. Les associations de chefs décorateurs ainsi que le maire de la ville ont salué cette très heureuse décision.
Merci Zoé. On passe tout de suite au dossier du jour. Les destructions du patrimoine culturel par Daesh continuent. Le week-end dernier a été noir. Après la destruction en bulldozer annoncée jeudi de la ville antique de Nimroud, plusieurs témoins indiquent que l'organisation terroriste aurait détruit ce week-end la ville antique de Hatra en Irak.
Oui, alors ce sont des informations extrêmement compliquées à confirmer puisque la propagande de Daesh n'a pas encore revendiqué cette destruction et qu'il est très compliqué d'aller vérifier sur place. Plusieurs personnes disent avoir vu des djihadistes partir en expédition vers Hatra et avoir ensuite entendu une immense détonation, car ce qu'il faut savoir, c'est que cette ville de Hatra, elle est située au beau milieu du désert, comme l'explique Véronique Grandpierre, elle est historienne, elle connaît très bien la ville, elle y a été plusieurs fois, elle est chercheuse associée au laboratoire Identité et Territoire de l'Université Paris Diderot.
Elle fait partie de ce qu'on appelle les cités du désert, c'est-à-dire que c'était une cité qui s'élevait au milieu du désert, entre le Tigre et l'Euphrate, et qui, à l'origine, était une halte pour les Bédouins, qui avait pris de l'ampleur et qui est devenue une magnifique cité circulaire d'un diamètre de 2 km. La particularité de cette cité, c'est qu'elle s'est opposée et qu'elle a résisté à un empire, et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'Empire romain. Hatra c'est un art tout à fait particulier, puisque c'est un art qui combine à la fois tout ce qui est mésopotamien, tout ce qui est parthe, et on n'a pas retrouvé beaucoup de sites parthes par ailleurs, mais aussi avec une influence romaine et une influence grecque. Donc c'est un art tout à fait particulier qu'on ne va pas trouver ailleurs.
Ces destructions, si elles sont vérifiées, interviennent après celles de Nimroud et du musée de Mossoul, toujours en Irak.
Oui, le rythme est de plus en plus soutenu. Et l'Irak, qui a rouvert, je le rappelle, la semaine dernière, son grand musée de Bagdad en signe de résistance, est complètement impuissant. Le pays demande l'aide de la communauté internationale, la tient même depuis ce week-end pour responsable de ce qui se passe, comme l'a clairement dit Raïs Hussein Rachid, le ministre des Antiquités et du Tourisme irakien, lors d'une conférence de presse hier.
Nous tenons pour responsable la coalition internationale, et je suis sûr que d'autres partageront mon opinion, d'avoir, à cause de sa très lente action contre ces groupes et leurs crimes, de les avoir encouragés à attaquer, détruire et piller.
Si au musée de Mossoul, la plupart des œuvres détruites étaient des copies, il s'agirait ici de sites inestimables.
Oui, là, en l'occurrence, c'est complètement impossible à sauver. En plus, la cité d'Atra, on l'a dit tout à l'heure, était particulièrement exceptionnelle, puisqu'elle a été totalement préservée par les sables, ce qui est dans un état de préservation absolument rare pour une ville qui a été abandonnée au début de notre ère. Elle est considérée réellement comme l'un des sites les plus importants du monde. Véronique Grandpierre.
Alors, c'est des vestiges importants sur plusieurs mètres de haut, hein, parfois sur 15 mètres de haut, donc elle est restée en l'état. Vous aviez donc les murailles, les bases des murailles qui étaient restées, c'était un double rempart. Vous aviez les quartiers d'habitation et surtout au centre de la ville, vous avez un complexe rectangulaire où vous aviez, à l'intérieur duquel vous aviez un certain nombre de temples, dont un temple hellénistique avec une double colonnade, et puis le temple de Shamash, le dieu du soleil, puisque Atra signifie l'enclos du soleil. C'est dramatique en termes archéologiques. De toute façon, ce qui s'y passe est dramatique.
Voilà, alors l'UNESCO dénonce, c'est la première fois qu'elle utilise ce terme ce week-end, un crime de guerre. Elle appelle la communauté internationale à agir vraiment au plus vite pour protéger les nombreux sites mésopotamiens d'Irak avant qu'ils ne disparaissent tous.
Peut-être une réaction de votre part, Antoine Gint ?
Oui, en dehors du fait que c'est terrifiant, on s'aperçoit qu'en Syrie, en Irak et même en Égypte, par exemple, on a vraiment une attaque contre la culture, au sens même de la culture écrite, d'ailleurs. Et c'est une chose en Occident dont on ferait bien de se méfier aussi. Enfin, y a une disparition du fond, quoi. Et ça me préoccupe.
On passe tout de suite au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec le Vatican qui a annoncé lundi avoir été l'objet d'un chantage de la part d'un inconnu qui réclame de l'argent pour restituer deux documents de Michel-Ange volés il y a une vingtaine d'années. La disparition de ces deux documents des archives de la Fabrica di San Pietro avait été signalée pour la première fois en 1997. La gendarmerie du Vatican, et oui car elle existe, a ouvert une enquête.
Le groupe Albin Michel a annoncé lundi avoir fait l'acquisition des éditions Auray.
Maison d'édition familiale spécialisée dans les ouvrages dits de société, connus notamment pour les best-sellers de Laurent Pernou, excusez-moi, j'ai dit Laurent.
On voit que vous n'avez jamais été
Laurence.
Enceinte.
Ben non, je n'ai pas encore été enceinte puisque c'est de livre, c'est
vous l'avez
J'attends
fait,
un enfant.
Mentalement peut-être.
J'élève mon enfant, voilà.
J'ai vu ça dans la bibliothèque de ma mère.
Voilà, donc Laurence Pernou passe donc chez Albin Michel. Nous souhaitons, grâce à cette acquisition, renforcer nos publications destinées à la famille du groupe. Pardon, faut qu'on continue là.
Oui, non, c'est trop horrible. Le président... Turc, vous m'avez mis. Vous savez ce qu'elle a marqué pour me faire. Pour que je m'humilie en public, elle a marqué le président truc.
C'est que je vous piège, j'adore ça.
Le président turc condamné pour insulte à un sculpteur.
Tout à fait, la troisième cour civile de la paix d'Istanbul a condamné le président Recep Tayyip Erdogan au paiement d'une amende de 10 000 livres turcs. Truc quand même, hein, environ 3 600 euros. Il a donc été jugé coupable d'avoir insulté le sculpteur turc Mehmet Aksoy en qualifiant son œuvre Monument to Human. Une œuvre de béton de 30 mètres qui figure l'amitié turco-arménienne, ce qui surplombe la ville de Kars, de, je cite, « grosse monstruosité ».
Et la dernière ?
Alors la dernière, c'est une histoire un peu étrange, je suis sûre que vous allez aimer. C'est une histoire d'exposition qui est de plus en plus polémique, de sans-abri, de sans-abri qu'ils exposent en fait, c'est ça, ça se passe en Suède. Exposition qui fait largement polémique. Alors elle est dans un centre d'art, on est dans un centre d'art avec plusieurs expositions, et il y a cette œuvre qui est un petit peu l'acmé. Et pour voir cette œuvre, il faut traverser un couloir sombre, et là vous vous retrouvez avec une grosse pancarte qui vous dit « Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de donner, et il y a deux sans-abri roms ». Des vrais sans-abri roms, et qui sont tous les deux assis dans une pièce exposée, avec autour d'eux une salle tapissée de coupures, de journaux sur les problèmes sociaux, de lumières tamisées, de vieilles bouteilles en plastique usagées, etc. Alors c'est Anders Carlson, le directeur artistique de l'Institutet, donc le groupe qui a piloté cette exposition, et qui a eu l'idée d'exposer ces gens, puisqu'ils sont vraiment des sans-abri, dans le but de provoquer un questionnement sur l'attitude face aux mendiants, puisque je rappelle que l'arrivée de roms a été extrêmement... forte ces dernières années en Suède, et un pays qui connaissait jusque-là très très peu de sans-abri. En tant qu'artiste, je peux offrir un espace où les gens peuvent rechercher pourquoi ils tolèrent autant ces injustices alors qu'elles enfreignent en fait leur propre morale. Ceux qui sont en cœur ravis de cette exposition, ce sont les deux sans-abri roms, puisqu'ils expliquent qu'ils sont payés 15 euros de l'heure pour figurer dans cette exposition, et que c'est bien mieux que tout ce qu'ils ont eu jusque-là.
Merci Zoé Sfez, on se retrouve demain pour la poursuite de ce journal de la culture.
Avec plaisir, Laurent.
Vérifiez dans la bibliothèque de votre psychanalyste de mère, je crois que Laurence Pernoud doit y être.
Je n'en doute pas, puisque je suis une enfant plutôt réussie, vous me direz.
Hein, c'est vous qui dites.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau 6e symphonie avec vous, Alix Delaporte, cinéaste. Après une carrière de reporter d'images, on y reviendra. Vous signez aujourd'hui votre deuxième long métrage, Le Dernier Coup de Marteau, qui sortira en salle mercredi prochain. On y retrouve Clotilde Esme et Grégory Gadebois, qui était déjà du premier, qui s'appelait Angèle et Tony, avec un jeune comédien excellent, Romain Paul, 13 ans, qui a reçu le prix Marcello Mastroianni du jeune acteur au dernier festival de Venise. À son sujet, d'ailleurs, je lisais que vous l'avez découvert lors d'un casting à Montpellier. Son regard vous avait arrêté. Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui ?
C'est le regard en fait, c'est le regard, mais c'est aussi le fait que c'est pas un gamin dont on dit oh, il a vraiment une gueule ou quelque chose, c'est un gamin qui a un regard et qui nous donne la sensation qu'il est, enfin, qu'on peut le transpercer en fait, qu'on peut, c'est comme une éponge, il y a une forme de neutralité mais pas au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que quand on le regarde, on a envie de savoir ce qui se passe dans sa tête et ça c'est pas donné à tout le monde. Après je pense qu'il y a une... Il y a un côté un peu profond. Oui, il y a une profondeur aussi dans le regard, mais qui dit qu'on peut s'y plonger, dit qu'il y a quand même une profondeur. Et une profondeur, une douceur, une mélancolie. Peut-être l'ensemble, ce serait de dire que. Je vais trouver mes mots. On dit qu'il ressemble par exemple à River Phoenix dans À bout de course ou dans On m'a dit Stand by Me. Je pense que c'est un gamin dont on sent tout simplement qu'il prend des choses sur ses épaules et que c'est pas à son âge qu'on doit le faire. En fait, on le ressent.
Quand vous faites un casting, donc des auditions, quelle est la scène ? Est-ce qu'il y a une scène en particulier que vous leur faites dire ou répéter pour voir ? C'est laquelle ?
C'est très compliqué. En fait, cette scène, justement, c'est une vraie question que je me pose. C'est que la scène, c'était la scène dans laquelle il va... Sa mère lui dit qu'il faut déménager.
Ils habitent Montpellier dans une caravane. Hein,
voilà, ils habitent Montpellier environs. Dans une caravane. Et à un moment, il rentre chez lui et il se rend compte que sa mère fait visiter l'endroit dans lequel ils vivent. Et en fait, il s'interroge. Elle dit qu'ils vont partir chez les grands-parents. Et il lui pose la question du médecin. Et elle dit, on arrête le traitement pour voir comment je me débrouille. Et cette scène-là, on l'avait faite en répétition. Donc moi, je reçois une petite vidéo sur cet essai. Et ce que j'y vois, c'est surtout cette capacité à écouter l'autre. Parce qu'un enfant, généralement, quand il est en casting, ce qu'il veut, c'est réciter son texte comme si c'était une poésie. Et il a très peur qu'on lui dise, tu le savais pas. En fait, c'est ça, sa grande trouille. Donc, il répète avec leurs parents. Généralement, c'est pas génial, en plus. Et là, il arrive. Et lui, en fait, il laisse un espace. Et je pense que c'est cet espace de 3 secondes qui, tout d'un coup, m'a arrêté. Je me suis dit, il est capable d'écouter, en fait.
Benoît Lagan.
Alors, dans Le Dernier Coup de Marteau, Romain Paul donc, interprète Victor, 13 ans. Il vit donc avec sa mère, Clotilde Esme, dans une caravane sur la côte montpelliéraine.
Clotilde Esme, c'est ça, oui. Elle a pas osé nous le dire. Depuis tout à l'heure, j'ai vu, chaque fois, je dis Esme.
C'est notre côté du sud.
Voilà, on prononce toutes les lettres.
Et au moment où il pourrait intégrer une formation et envisager peut-être une carrière dans le football, Victor va forcer une rencontre avec son père, Grégory Gadebois, qu'il n'a jamais vu. Ce père est justement de retour à Montpellier. C'est un chef d'orchestre réputé qui va diriger la 6e symphonie de Gustave Mahler. On écoute la bande-annonce.
Je viens voir mon père.
Comment tu t'appelles ?
Victor. Ma mère, c'est Nadia.
Tu as quel âge ?
13 ans. Enfin, 14 bientôt.
Je n'ai pas d'enfant.
Il a dit quoi, le médecin ?
Il arrête le traitement pour voir comment je me débrouille.
Il arrête tout. On va le voir, le chef.
Il y en a qui acceptent qu'on assiste aux répétitions, mais lui, il va voir personne.
Il n'attend pas 10 ans pour dire à quelqu'un qu'il a un enfant.
Maintenant qu'il est là, t'attends quoi ? Qu'il reparte à l'étranger ?
Plus doux !
On peut demander à ce gamin ce qu'il fait, là.
On va aller où ?
Chez mes parents.
À Chalon. Pourquoi vous êtes revenu ? Pour me voir ?
Tu fais ce que tu veux avec lui, et tu le fais pas venir ici.
Pour ressentir des choses avec la musique, t'as pas forcément besoin de t'y connaître. Tu fermes les yeux, puis tu commences à voir. Je sais pas, mais de l'eau, une forêt, des enfants qui passent, ça te rend triste, gai, ça te donne envie de bouger les montagnes.
Alors, Le Dernier Coup de Marteau, le titre de votre film, est une référence directe à la 6e symphonie de Mahler, une symphonie que vous avez connue et intégrée à l'histoire avant même de l'avoir écoutée, j'ai pu lire. Vous étiez intrigué par son aspect fictionnel ?
En fait, c'est cette histoire des coups de marteau. Quand j'ai su que le père dans cette histoire serait chef d'orchestre, j'ai lu des choses sur les chefs d'orchestre. Et en fait, je suis tombée sur cette histoire des coups de marteau. Du coup, je me suis dit, mon film va s'appeler Le Dernier Coup de Marteau. Et alors après, ça voulait donc dire qu'il fallait que j'utilise la 6e symphonie de Mahler, moi qui ne connais pas en fait grand-chose à la musique classique. Je sens que c'est un endroit que j'ai envie d'explorer, mais je ne suis pas vraiment une grande connaisseuse. Et donc, j'ai eu assez peur de l'écouter, en fait, cette symphonie, parce que tout le monde m'a dit, en plus, Mahler, tu sais, tu peux pas t'attaquer à Mahler parce que c'est un monument, et puis c'est complexe, et puis en plus, cette symphonie, elle est compliquée, elle est dite tragique. Bon. Et du coup, j'ai attendu la fin du scénario pour l'écouter. Et je pense que je l'ai jamais écouté encore en entier. Mais il se trouve que dans le 3e mouvement, enfin, je suis tombée sur 20 secondes qui étaient, comme un lâcher-prise, en fait, absolument romantique et surtout qui me racontait le sentiment intérieur de Victor. Et c'était ça, pour moi, l'essentiel.
Le 3e mouvement, en effet, vous a particulièrement marqué, puisque l'on voit, vous faites buter le chef d'orchestre dessus. Pour quelle raison, justement, Alix de Laporte?
Alors, c'est des questions que vous me posez. Et c'est vrai que c'est parce que vous me les posez que je cherche enfin, que j'y réponds et que je réfléchis, parce que forcément, chez moi, c'est pas du tout... j'analyse pas, ouais, les choses quand j'écris. Je crois qu'aujourd'hui, je peux tout simplement dire que nous, voilà, à l'écriture, bah, le chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui fait jouer les gens ensemble, de la même manière que l'entraîneur de foot, il fait jouer les joueurs ensemble. Et nous, on fait jouer les acteurs ensemble. Il y a un moment où, forcément, je sais que dans l'écriture ou dans le montage, il y a des moments où ça bloque, et ça bloque au point de penser qu'on fera jamais même de film, et qu'on en fera même plus jamais, et que parfois, il suffit juste d'aller au café et penser à autre chose, écouter les gens. Et je pense que c'est juste ça, c'est un moment. Et alors, dans ce film, ce moment-là, il correspond à peut-être sortir de l'orchestre, emmener le gamin ailleurs, chez sa prof de piano d'enfant, qu'il avait quand il était enfant. Et il y a quelque chose qui se débloque, montrer aussi un peu d'intimité. C'est peut-être ça, en fait.
Anton Gint, cette histoire de coup de marteau et de 6e symphonie de Mahler, ça vous dit quelque chose, vous
Oui, non, mais ça me dit quelque chose. Mais surtout, je suis très passionné et intrigué par ce que raconte Alix. Et j'ai besoin, comme je connais un peu la symphonie de Mahler, je vais aller voir le film. Voilà.
Benoît, votre film dure 1h25, comme la 6e symphonie, c'est un lien de cause à effet?
Alors c'est vrai que quand je l'ai... Encore une fois, c'est pas calculé, mais d'abord mes films ils sont assez courts, puisque je coupe quand même beaucoup, j'essaye de réduire... Enlever les choses un peu, voilà, qui sont pas essentielles. Et quand on dit, à un moment, il y a quelqu'un qui disait, la 6e, c'est une course effrénée dans la tête du compositeur. Ça me parle complètement. Et c'est vrai que cette symphonie, en plus, elle a une structure dans ses 4 mouvements. Elle a une structure qui ressemble un peu aux actes de mon film. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut pas calculer, parce que si on le calcule à l'avance, alors là, le spectateur le sent et c'est très intentionnel, je pense.
Vous avez fait un choix de mise en scène assez intéressant pour Grégory Gadebois dans le rôle du chef d'orchestre. Vous avez voulu le filmer à la hauteur de Victor, et donc à la hauteur de quelqu'un qui ne connaît rien à la musique classique, ce qui a l'air d'être un peu votre cas, toute proportion gardée. Ça veut dire quoi, filmer un acteur pour son rôle à la hauteur de quelqu'un qui ne connaît pas la musique classique, ou à la hauteur d'un enfant, en fait?
Alors, peut-être que ça veut dire à ma hauteur, ou peut-être ça veut dire à la hauteur du plus grand nombre de spectateurs, même si on n'écrit pas en pensant... Enfin, en tout cas, moi, pas, j'écris pas en pensant au spectateur, mais je pense que j'ai naturellement cette envie, peut-être que ça vient du documentaire ou du reportage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, nous, en fait, on pousse des portes et on emmène les gens et on les fait assister à des choses auxquelles, d'habitude, on n'a absolument pas accès. Et je pense que si j'avais connu trop bien ce milieu, peut-être que je me serais décalée du personnage et qu'on n'aurait pas vécu avec lui cette sensation de comprendre ce que c'est que des répétitions, ce que c'est que le travail du chef d'orchestre, que c'est que... Parce que ce gamin, petit à petit, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il voit la musique dans son ensemble, mais il voit pas de musique. Enfin, il n'entend pas de musique. Je pense qu'il voit d'abord des visages, et puis petit à petit, il commence à entendre, parce qu'à force d'y aller, à force de rentrer dans les répétitions, ça commence à venir. J'aurais pas pris un endroit où moi, j'étais en avance sur le gamin. C'était ça. Je voulais pas être en avance sur le gamin.
Benoît, une question à la reporter d'image que vous étiez. Pour Angèle et Tony, vous aviez tenu à tourner en 35 mm en utilisant beaucoup de filtres afin d'adoucir la peau. C'était la même chose ici?
Des fils pour adoucir la peau, c'est juste de dire que les gens, parfois, quand on traite de personnages qui rencontrent des obstacles, pour lesquels parfois la vie n'est pas hyper simple, c'est de dire, c'est pas parce que la vie n'est pas simple que les gens doivent être moches, en fait. C'est aller chercher une forme de beauté, quitter le naturalisme, comme on dit, bon, même si j'adore pas ce mot, mais essayer d'emmener les choses vers plutôt de la poésie, partir de situations réalistes et emmener vers quelque chose de poétique. Et je pense que le 35, notamment pour filmer à Beauduc et cette plage en Camargue, quand vous voyez l'endroit et que vous savez ce que rend le 35 aujourd'hui, le 35 mm, c'est encore inégalé, c'est d'une beauté hallucinante, en fait.
C'est quelque chose aussi qui vous intéressait quand vous faisiez du documentaire ou du reportage ?
Je me souviens que j'avais demandé, et j'arrêtais pas d'embêter Alain de Greffe à Canal+, et je lui disais, je veux tourner en Super 16. Alors là, ils m'ont regardé en disant, mais tu vas tourner les portraits pour nulle part ailleurs en Super 16. D'où, j'avais une bêta-cam normalement. Et je disais, non, je pense que ça, vraiment. Et en fait, c'est surtout que je trouve qu'il y a des histoires qui se prêtent à, et parfois, dans les portraits que je faisais, ça se prêtait, je sais pas, quand je parlais de cinéma ou quand il y avait un metteur en scène et tout ça, j'allais chercher vers le Super 16. J'étais attirée par ça. Aujourd'hui, on dit, la question se pose énormément au début du tournage, savoir en quoi on va tourner. Ça crée une nouvelle dimension. Je pense que le 35 garde une dimension, oui, poétique, je pense, encore.
Vous êtes au cadre pour votre film ?
Non.
Derrière le combo ?
Peut-être de plus en plus. Enfin, j'ai Claire Maton, qui est ma chef opératrice, qui a travaillé sur, enfin, qui a fait L'Inconnu du Lac ou Police. Elle est mon porte-parole, mon regard, en fait. Et c'est très, très bien d'avoir une distance. Moi, je préfère être avec les comédiens, en fait. Parfois, j'y suis tellement. Je me souviens d'une scène où j'y suis tellement que je n'entends pas. Une scène s'est terminée et j'ai dit, c'est magnifique. C'est vraiment. Et j'ai dit à Clotilde, ce que tu viens de faire, c'est incroyable. Et je disais aux autres, non, mais vous voyez quand même l'actrice qu'on a. Et là, Claire Maton, la chef-op, s'est retournée vers moi. Elle a dit, parfois, je plains Pierre Tucat, qui est l'ingénieur du son. Et j'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ils m'ont fait écouter. Il y avait un énorme avion. Mais je ne l'avais même pas entendu, en fait. Je pense qu'il y a un moment où je suis tellement absorbée par ce qui se passe que. Et il y avait mais la prise était totalement inutilisable.
C'est quelque chose que vous pouvez comprendre, vous, le metteur en scène, Anton Gint?
Le 35 mm ou l'avion?
L'avion, le fait d'être tellement avec les acteurs.
Non, mais l'avion, ça s'éclaire. Ouais. Enfin, j'ai fait du son moi-même. On est attentif quand on fait le son, quoi. Et évidemment, en mise en scène, il y a beaucoup d'autres choses qui nous occupent. Au théâtre comme au cinéma, j'imagine. Je ne suis pas du tout cinéaste. Mais... Donc, il y a des moments où on n'entend pas une chose qui est flagrante pour les autres. Quoi. Ça, c'est clair.
Benoît, pour travailler la gestuelle du chef d'orchestre avec Grégory Gadebois, vous avez travaillé avec un conseiller technique. Quel geste en particulier fallait-il plus particulièrement maîtriser? Peut-être ceux qui étaient difficiles aussi à travailler pour lui.
Alex Delaporte.
Au début, on avait l'ambition de tout travailler parfaitement. Et puis, Grégory a pris deux cafés avec Sévolod Polonsky, qui était son coach. Et au bout de deux cafés, Sévolod lui a dit « Je peux tout à fait former un chef d'orchestre en 5 à 10 ans. » Et donc là, Grégory a arrêté. Et il a arrêté de prendre des cours. Non, mais en fait, juste pour dire une chose sur Grégory, c'est que, et c'est pour ça qu'il transmet, à mon avis, autant à la fois d'émotion et de véracité, c'est que il n'a pas fait l'acteur sur ça. Il savait que l'essentiel n'était pas dans est-ce que je vais apparaître comme un chef parfait ou est-ce que je vais faire croire que je ne suis pas un père et tout d'un coup j'arrive à faire croire que je deviens un père. C'était ça, c'est pas de la performance. Et donc après, je peux dire que le geste, moi, qui m'est apparu principal, c'est le démarrage, c'est cette respiration du début. Et ça, il a fallu vraiment, il a fallu presque que le chef d'orchestre de l'orchestre de Lvov avec qui on a tourné, à un moment, l'a regardé faire et il l'a laissé faire deux fois, trois fois. À un moment, il l'a attrapé, alors que Grégory n'aime pas énormément qu'on le touche. Il l'a attrapé, il lui a pris les mains et il lui a dit « Faut faire démarrer cette sixième, quoi. » Et là, il n'y a personne qui se lèverait. Donc, tout d'un coup, et c'est vrai que l'impulsion, elle est assez... j'ai l'impression qu'elle est assez importante.
Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Gint?
Ah oui, j'aime beaucoup ça. Moi, je ne suis pas chef, mais j'aime bien coacher les chefs de temps en temps. Sur des questions de gestes. Parce que souvent, même quand on connaît la musique, on n'a pas le corps pour la transmettre. Enfin, chez les jeunes chefs, par exemple. Ça m'est arrivé, en toute amitié, évidemment.
De les coacher?
Oui, parce que souvent, le geste ne va pas jusqu'au bout, par exemple. Alors évidemment, quand on voit les grands chefs très charismatiques, on pense que c'est facile, qu'on se met devant la glace et on dirige des orchestres imaginaires. Mais en fait, c'est redoutable d'être devant, surtout Mahler, devant beaucoup de musiciens.
Chaque soir, Alex Delaporte, on demande à nos invités de choisir un son qui les a marqués. En ce qui vous concerne, vous aviez fait plusieurs choix. On écoute d'abord le premier.
Can't turn the world.
explication de ce son qui est très lié à votre film et la raison pour laquelle vous l'avez choisi. Quel problème il y a avec ce son, en fait, Alix Delaporte?
En fait, je l'ai choisi parce que je trouve que dans un film dans lequel Mahler et la sixième est si présent, faire venir un compositeur de musique originale, et moi, la musique originale, c'est quand même voilà, quelque chose qui... Je dissocie rien, ça fait partie du film, je la dissocie jamais. Comment on s'intègre dans un film dans lequel la musique est si présente? Et cette musique-là, justement, typiquement, c'était sur une scène assez importante, assez visuellement assez forte, sur un moment où le gamin se fait raser la tête. Et tout ce qui avait été essayé, tenté pour être... parce que Mahler faisait peur, donc le musicien au début faisait peut-être des choses un peu minimalistes. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte, et moi ça me passionnera toujours cette question, c'est que... ça ne marche que si on n'a plus peur de Mahler et qu'on dépasse et qu'on est encore plus gros. Et en fait, en étant encore plus gros, on oublie la musique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a peu de gens qui parlent de la musique elle-même sur cette scène et qui auraient pu faire clip justement en mettant la musique, mais des gens qui ne parlent que de la scène. Et ça m'a passionné cette question de la place de la musique, oser faire énorme, avec un énorme sentiment qui raconte... voilà, qui fait pas, ou on dit pas « Ah, elle était belle la musique », mais plutôt « Qu'est-ce qui était fort ce moment, en fait ?»
Deuxième son que vous avez choisi.
Wilson ! Wilson ! Wilson !
Qu'est-ce qu'on écoute, Alix Delaporte? Et pour quelle raison?
Je ne savais pas que ça ressortirait comme ça, mais non, on écoute un passage du film Seul au monde avec Tom Hanks, et en l'écoutant, peut-être je sais pourquoi, dans un moment où on sort un film, qu'on est à l'approche de la sortie, on a peut-être envie d'être seul sur une île déserte, coupé de tout, coupé des interviews, des critiques et tout ça, et être seul. Mais aussi, j'étais fascinée parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je me suis dit... Comment il a réussi à créer une empathie pour un ballon? Alors moi, ça me voilà. En fait, c'était juste ça me fascinait. Voilà.
L'empathie pour le ballon, c'est quelque chose qui vous concerne quand même, Benoît.
Oui, parce que vous avez fait plusieurs documentaires sur le monde du sport, notamment vous avez suivi Zinedine Zidane. Et il y a dans votre film des scènes de football et d'entraînement dans un club. Qu'est-ce que vous avez pu réutiliser justement de votre expérience de terrain pour ces scènes-là dans votre film? Dernier coup de marteau.
Je ne connaissais pas grand-chose à la musique classique et ce gamin avait une passion, il fallait que cette passion j'y connaisse quelque chose parce que je ne pouvais pas avoir que des endroits de fragilité en fait. Et voilà, il y a un match pendant lequel il y a des actions qui sont faites par le gamin, qui a 14 ans, donc, Victor. Et je pense que c'est la véracité. À un moment, on sait si un tacle est un bon tacle. Je savais ça. Je ne savais pas forcément le mettre en scène. C'est pour ça que Jean-François Domergue, qui était un ancien joueur de foot, m'a aidé à mettre ça en scène. Parce que quand je me suis retrouvée avec les 11 gamins et qu'il a fallu que je mette en place une stratégie tactique, alors là pour le coup, j'étais complètement larguée. Et là, c'est lui qui l'a fait. Mais au moins, je pouvais ressentir les choses. Voilà. J'ai juste besoin de ressentir. Je ne peux pas analyser et construire une tactique, mais je ressentais si c'était juste, quoi.
Comment vous êtes retrouvée sur le projet avec Zinedine Zidane?
C'était quand je faisais des portraits pour Nulle part ailleurs, ouais. On m'a proposé en fait Zinedine Zidane avait signé un contrat sur la chaîne et en fait il fallait l'interviewer toutes les semaines et faire des interventions qui passeraient sur la chaîne. Et comment je réussis ma roulette, comment j'ai trouvé tel match et tout ça. Donc on m'en a pas parlé mais j'en ai entendu parler et je suis allée voir les gens de Canal+, j'ai dit ça, je voudrais le faire. En fait, je voudrais le faire. Aujourd'hui, je sais que ce que j'ai filmé, c'est... j'étais à la recherche déjà, à mon avis, d'un personnage, puisque sa vie, elle est quand même extrêmement fictionnelle. Et je pense que c'est une forme de... Oui, c'est une sorte de héros. Nous, on filme des héros, des gens qui font des choses qu'on n'arrive pas à faire. Je pense que c'est ça qui m'a attirée.
Le rendez-vous. Rendez-vous. Extérieur. Extérieur.
Alix Delaporte et Antoine Gint, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Et ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, c'est un chef d'orchestre, Maxime Pascal, Manu.
Maxime Pascal, 29 ans, chef d'orchestre, directeur, cofondateur de l'Orchestre du Balcon, qui est abrité par le Théâtre de l'Athénée Louis Juvet à Paris. Prochaine date, c'est justement à l'Athénée, les 27 et 28 mars, avec notamment au programme 4 chants pour franchir le seuil, méditation musicale sur la mort en 4 volets. C'est joli, c'est pour ça que je le dis en entier, de Gérard Griset, interprété par la soprane Julie Fuchs. Et je l'ai rencontré, le chef d'orchestre, Maxime Pascal, dans ses bureaux du 11e à Paris.
Questionnaire France Musique, Maxime Pascal, Manu Farine.
Le compositeur de votre enfance?
Michael Jackson.
Première expérience de direction?
La première fois que j'ai dirigé, c'était quand j'étais étudiant au conservatoire de Bayonne. Le concerto pour trompette de Haydn. Voilà. C'était une espèce de geste un peu ébouriffant, mais c'était une belle première expérience.
Un professeur qui aura été décisif pour vous?
Ça, c'est difficile. Hein. J'en ai eu deux quand même, vraiment, Michael Levinas et François-Xavier Roth au conservatoire, donc, qui ont été des personnalités vraiment qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Et puis après, Pierre Boulez m'a beaucoup aidé. Il a une liberté en tant qu'interprète qui est totale. Il a une liberté dans son rapport au mouvement musical, au geste instrumental, qui est vraiment fascinante. Et il est d'une souplesse folle. C'est très beau à voir, en fait, et à entendre.
Le compositeur que vous aimiez et que vous n'aimez plus ou que vous aimez moins?
Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le groupe IAM et j'aime plus trop ça maintenant. Mais quand j'étais adolescent, j'avais une grande fascination pour Ligeti. Et en fait, depuis récemment, je sais pas, j'en reviens un peu. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça reviendra, je suis sûr.
La musique que vous avez honte d'aimer?
J'aime vraiment la grosse techno qui tâche.
Le compositeur que vous n'êtes pas encore prêt à diriger?
Un jour, en cours de direction avec François-Xavier Roth au CNSM, ça a été un de ses tests, une de ses questions aux élèves. Il a dit, voilà, imaginez demain, le LSO vous appelle et voilà, il faut remplacer un chef, il faut aller diriger la deuxième symphonie de Mahler. Demain, là, il vous appelle maintenant et qu'est-ce que vous faites? Et donc, moi, j'avais répondu oui, moi, j'y vais. Et je trouve que, surtout aujourd'hui, on est dans un circuit culturel qui, parfois, est un peu endormi. Je trouve que n'importe qui monte sur scène devrait être en danger de mort.
Le compositeur que vous aimez faire découvrir?
Bah là, clairement, c'est Stockhausen qui a écrit des opéras incroyables dans lesquels les personnages sont plus des chanteurs. Ce sont des instrumentistes qui sont costumés, qui jouent la comédie. Les opéras sont complètement fous. Ils se passent dans plusieurs salles en même temps. C'est complètement cosmique. Ça se passe un peu... Il y a toute une espèce de background biblique alternatif qui se passe dans l'espace avec des anges, des dieux, enfin c'est incroyable, c'est mon compositeur préféré et c'est vraiment ce que j'adore faire découvrir.
L'enregistrement que vous avez le plus écouté?
J'ai beaucoup beaucoup écouté les madrigaux de Gesualdo. C'est un truc que j'ai fait tourner en boucle, donc un compositeur italien de la Renaissance qui a quand même assassiné sa femme et l'amant de sa femme. Il écrit une musique très très dissonante et vraiment très torturée. Ces madrigaux, on a l'impression que les voix hurlent comme ça et on raconte qu'il écrivait ça pour que les chanteurs qui répètent sa musique puissent couvrir les bruits des enfants qu'il était en train de torturer, des trucs comme ça, enfin, c'est incroyable. Et ça c'est un truc que j'ai à un moment donné beaucoup écouté. Ouais.
Le compositeur que vous auriez aimé rencontrer?
J'aurais adoré entendre Beethoven improviser au piano.
Maxime Pascal, merci.
Anne Farine?
Antoine Jean, peut-être un commentaire sur ce que vous venez d'entendre. J'imagine que vous ne partagez pas le désamour provisoire de Maxime Pascal pour Ligeti.
Oh bah comme il a dit, il va en revenir. Non, j'aime beaucoup, je le connais pas bien, mais j'aime beaucoup. Alors lui, il n'a pas besoin de coach pour diriger son orchestre. Il a un geste fabuleux, enfin un investissement formidable. Quoi. Maxime Pascal fait vibrer, quoi. Vraiment, on a besoin de chefs aussi qui transmettent autre chose que de la technique, quoi. On a besoin de ça.
Et quand il parle de circuits culturels, parfois un petit peu endormis, vous partagez?
Oui, on peut le dire de tous les arts, je pense. Hein. C'est normal, on a une masse de production qui est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'il y a, je sais pas, un demi-siècle. Donc on a moins de singularités, elles sont plus difficiles à trouver, que ce soit dans le cinéma, je pense, dans la musique ou dans le théâtre. Bon. Mais voilà, je sais pas, au niveau des chefs, Kourenzis, Dudamel, ça bouge, très, mais fondamentalement. Quoi.
Lui, il écoute de la techno. Vous, qu'est-ce que vous écoutez, Alix Delaporte?
Du rap, de tout. En fait, non, j'ai du rap, je commence par dire du rap, mais vraiment de tout, mais alors à 100%. Quoi. Je pense que je serais incapable de dire, j'écoute vraiment, vraiment de tout.
Et quel est le compositeur que vous avez choisi pour votre film?
Vous dites ça parce que j'ai oublié de dire son nom.
Non.
Non, parce que c'est vrai que c'est important, parce que c'est Evgeny et Sacha Galperin qui ont fait ce titre qui s'appelle Sublime, avec beaucoup de modestie. Et voilà, j'avais envie de le dire.
Le rendez-vous.
plateau théâtre musical avec vous, Antoine Gint, metteur en scène, producteur et directeur du TM.
C'est pas facile à dire.
Hein. Oui, c'est un mauvais titre.
Dites-le.
TM Paris, oui.
Voilà, TM Paris, une structure fondée en 1997, dédiée aux nouvelles formes de théâtre musical et lyrique, et qui a prolongé l'ATEM, qui était l'atelier théâtre et musique créé par Georges Apergis. Vous allez d'abord revenir sur cette terminologie que vous avez en commun, théâtre musical. En quoi ça diffère de l'opéra? Qu'est-ce que vous mettez derrière cette terminologie?
Oh, c'est un sujet infini.
Infini, c'est pour ça que chaque fois, on a envie d'en savoir un peu plus. Ouais. On va bien finir par l'épuiser.
D'ailleurs, quand on tourne à l'IADOS en ce moment, puisqu'on entend ça à l'instant, quand on est à Caen, on est théâtre musical. Quand on est à l'Opéra de Lorraine, à Nancy, on est opéra.
Opéra.
Donc finalement, on ne sait plus où on est. Et c'est sans doute ça, c'est Maurice Leray, je crois, qui disait... On sait ce que le théâtre musical n'est pas, mais on ne sait pas ce qu'il est. Quoi.
Et mais pourtant, vous, c'est de ce côté-là que vous êtes allé.
Oui, mais moi, j'aime que la musique aille au théâtre et le théâtre à la musique, mais au vrai sens du terme. L'opéra est une mise en scène, évidemment, par définition. Mais souvent, on voit qu'elle est spécifique à l'opéra, c'est-à-dire qu'elle fait genre en tant que telle. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir combien de metteurs en scène, passant du théâtre à l'opéra, se mettent à faire de la mise en scène d'opéra et perdent un peu leur théâtre. Donc voilà, c'est une alchimie qu'il faut trouver. Certains compositeurs, vous citez Apergis, évidemment, sont devenus maîtres dans cet art, mais ils font les deux gestes en même temps, puisqu'ils écrivent leur musique et ils dirigent les chanteurs ou les comédiens qui sont avec eux. Moi, je suis metteur en scène, je ne suis pas compositeur. Sébastien Rivas est compositeur, il n'est pas metteur en scène. Là, on retrouve un assemblage plus conventionnel.
L'atelier théâtre et musique avait été créé en 1976. Quand vous arrivez, c'est au début des années 90, est-ce que les lignes initiales avaient bougé? Quel était le contexte quand vous arrivez dans ce cadre-là, Antoine Gint?
Oui, le contexte, il a bougé à ce moment-là parce que... Apergis avait fait un travail fantastique à l'ATEM, notamment à Bagnolet. Il avait une autre activité qui était très associée à Antoine Vitesse en particulier. Donc il partageait un peu son activité entre le théâtre musical puis certaines formes lyriques que Georges a créées dans les années 70 et 80. Et puis arrivant à Nanterre, j'y suis arrivé pour co-diriger l'ATEM à l'époque. Et là, on a hypertrophié le projet. C'est-à-dire, on a dit, ça n'est plus que la compagnie Apergis. Mais c'est aussi un endroit où on va inviter des compositeurs à réfléchir sur ces questions et à leur donner un maximum de liberté. Quoi. Ça a été du Sapin avec To Be Sung, Heiner Goebbels avec Débarquement désastreux, enfin, des spectacles qui sont devenus un peu cultes dans notre micro-milieu. Mais c'était important pour moi d'accompagner ces nouveaux gestes.
Manu Farine.
Alors justement, vous dites que l'avantage du théâtre musical, même si donc il s'aventure parfois du côté de l'opéra, c'est de dire on peut faire... autrement. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il a fallu faire autrement, c'est-à-dire autrement que l'opéra?
Mais il faut toujours faire autrement. Autrement, on figerait les formes. La question, pour moi, elle est importante de savoir... C'est un peu la question du cinéma d'auteur par rapport au cinéma industriel, si vous voulez. C'est la question de quels moyens on engage et comment on contrôle un certain nombre de processus de production, par exemple. Je veux dire, dans l'opéra, vous savez que le travail est très, très divisé. Le directeur de casting n'est pas le metteur en scène. Le chef d'orchestre, en général, ne connaît pas forcément le metteur en scène, etc. etc. Bon. Alors, il y a des endroits très nobles à l'opéra qui résolvent ce genre de problème, évidemment, mais ce n'est pas souvent le cas à l'échelle globale. Le théâtre musical, on a la chance de pouvoir intervenir sur tous ces degrés. C'est-à-dire, quand je fais Pinochet et Thatcher on stage... Je suis obligé de me poser, moi, la question de metteur en scène, de dire qui je veux comme Pinochet et qui je veux comme Thatcher. Je ne veux pas qu'il y ait un directeur de casting qui me dise « on a un mec pas mal ». Non, je veux celui-là.
Alex de la Porte, je voyais opiner du chef en
écoutant. Parce que c'est vraiment une interrogation. La première fois que j'ai vu, c'était Alain Altinoglou dont j'ai suivi les répétitions, qui m'a aidé sur le scénario, par exemple. C'était vraiment ma première interrogation, c'était ça, c'est comment on travaille, comment on aboutit un projet alors qu'il y a un metteur en scène et un chef d'orchestre. C'est-à-dire, comment ce double langage, c'était vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit, alors ce que j'ai vu, c'était, je pense que c'était Mario Marton qui était metteur en scène, il y avait Alain Altinoglou, et comment on réussit à amener, c'est étrange, en fait, pour nous. C'est comme si on co-réalisait, en fait. Mmh. Et souvent, et en plus, ces gens-là, le directeur du Théâtre des Champs-Élysées me disait qu'en plus, ces gens-là ne se choisissent pas, en fait. Ces gens-là sont choisis par, en plus, une personne extérieure. Donc, comment on arrive, en fait? Comment on fait quoi? On fait des compromis? Ou alors, il y a une alchimie qui se passe et ça tombe bien et c'est une chance? C'était une question.
Ah, mais ça peut bien se passer par chance, mais il faut essayer de contrôler, c'est quand même plus intéressant artistiquement.
Alors, parmi les nombreuses actualités de TNM, il y a la reprise d'Aliado, c'est un opéra de Sébastien Rivas, dont on entendait un extrait tout à l'heure en ouverture, et que vous mettez en scène. C'est la rencontre amicale entre Margaret Thatcher et Augusto Pinochet en 99 à Londres, alors que la Chambre de Lords vient de lui refuser l'immunité. Qu'est-ce qui vous avait convaincu pour produire cet opéra, et même en signer la mise en scène?
Alors, deux choses. D'abord, le sujet politique de l'opéra est suffisamment rare pour qu'on s'intéresse immédiatement à ce genre de questions. L'opéra traite souvent les mythes, même les opéras contemporains, je veux dire. Par exemple, les mythes, parce qu'ils sont éternels, etc., etc. Là, tout à coup, on avait un vrai fait divers. Je reprends l'anecdote de la durée. L'opéra de Sébastien Rivas dure, en gros, la durée de la rencontre entre Margaret Thatcher et Pinochet le 26 mars 99 à Londres. On est vraiment dans le temps de la rencontre, 70 minutes à peu près. Hein. Donc le sujet était fascinant. Bon, voilà. Après, la question c'était de savoir si on pouvait le produire, avec qui. Il y a toujours des questions compliquées à ce niveau-là. Et moi, puisque c'était une interrogation directement faite par Sébastien, de savoir si j'avais envie d'en faire une mise en scène, c'était de savoir si je pouvais réagir à l'idée. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était le processus, on rejoint le cinéma, de savoir comment j'allais pouvoir travailler en tandem, non pas avec le chef, mais ça j'ai l'habitude, mais avec un cinéaste, pour le coup, parce que je voulais la présence de l'image pour des raisons de sujet. C'est-à-dire qu'on connaît cette rencontre parce qu'elle a été médiatisée, et évidemment parce que les médias étaient présents. Et quand on analyse le petit extrait qu'on trouve partout sur YouTube de cette fameuse rencontre, on s'aperçoit qu'il y a au moins 3 ou 4 caméras pour faire des champs contre champs, des plans de coupe, enfin tout ce qu'il faut pour faire du cinéma, alors qu'on a l'impression évidemment que tout ça est improvisé comme si elle passait par là, quoi. Bon. Donc toute cette manipulation médiatique m'intéressait. Et j'ai rencontré Philippe Bézière qui avait capté un de mes précédents spectacles peu de temps avant, et je me suis dit, c'est sûr, l'outil dont j'ai besoin pour faire ça, pour rendre cette espèce de dualité entre la réalité du plateau et donc de la vie, et puis ce que nous, on en perçoit, c'est tout cet outil de captation.
En temps réel.
En temps réel, qui nous est devenu accessible aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, parce qu'il aurait fallu un camion de 30 tonnes dans la rue pour faire ça. Aujourd'hui, on sait qu'on peut utiliser des moyens un peu onéreux, je ne le cache pas, mais accessible au spectacle vivant. Et effectivement, tout l'enjeu, c'était de faire ce quatre mains entre Philippe et moi, et de trouver comment partager la scène. Hein, pour ceux qui ont vu le spectacle ou qui vont venir le voir à Nancy, on voit ce qui se passe vraiment, avec beaucoup de choses sur le plateau. Puis on voit la résolution à l'image, c'est-à-dire le point de vue subjectif de la caméra.
Alors, à propos de mise en scène, Antoine Gint, ce n'est qu'en 2003, je crois, que vous passez à la mise en scène, ce qui est quand même assez tardif. Qu'est-ce qui a rendu ce passage-là nécessaire?
Ça, c'est un concours de circonstances qui n'est pas forcément agréable à rappeler. Mais bon, c'était un échec d'un spectacle que je produisais, où finalement, je me suis retrouvé dans une situation un peu bancale. C'est un peu l'histoire du chef d'orchestre qui doit remplacer le chef qui avait été pressenti et qui peut pas le faire, quoi. Bon, je me suis perfectionné depuis, hein, je vous rassure. Non, c'est quelque chose que j'ai accompagné longtemps, y compris en tant qu'assistant. Après, la question pour moi, elle était très personnelle. C'est j'hésitais à diriger les chanteurs. Voilà. Enfin, je savais pas si j'étais capable de ça, parce que je pense que la mise en scène se résout dans un dialogue, dans une direction d'acteur. Après, on entoure tout de technologie ou de décor ou de costume. Mais le principal geste pour moi, c'est de savoir comment je peux amener les chanteurs là où j'ai envie à peu près qu'ils soient. Et j'avais cette réticence avant. Et le fait d'être dans le grand bain m'a révélé que j'étais capable de le faire, quoi, d'une certaine manière.
La direction d'acteur, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse ou qui vous pose problème, Alix Delaporte? Parce que chaque fois qu'on a un réalisateur et qu'on parle de direction d'acteur, on nous dit « mais ça n'existe pas ».
Ah bon ?
Ouais, très souvent. Ouais, très souvent.
C'est au casting, c'est au moment du casting, par exemple.
Ah oui, c'est cette fameuse réponse qui est la direction d'acteur, c'est d'abord le choix, en fait, le choix de l'acteur. Bah oui, je suis désolée, je vais pas être très originale, hein, mais c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui en met une baguette dans les mains, 110 musiciens devant, un costume noir et un gamin qui débarque derrière, et un texte très écrit à la virgule près, c'est quand même le choix de Grégory. Enfin, qu'est-ce qu'il fait d'autre, quoi, à part être le personnage? Il n'y a pas beaucoup de... On dit pas à des acteurs comme ça... Je ne sais pas comment exprimer, ce serait... Un acteur, on ne peut pas lui mettre beaucoup de psychologie. Souvent, au début, quand on démarre, on a envie de dire tout ce qu'on a voulu écrire, toutes les intentions qu'on a. Ça, c'était la question sur le premier long-métrage. Là, maintenant, je pense que plus ça ira, moins je parlerai, parce que finalement, c'est communiquer ses peurs, et ça n'a pas vraiment d'intérêt, en tout cas, d'amener de la psychologie. Donc, il faut juste donner confiance, je pense, en fait.
Et vous êtes un directeur d'acteur sur le plateau, avec les comédiens, avec les chanteurs, ou depuis la salle ?
Oh, sur le plateau, en général. La salle m'ennuie, on est loin.
Bon. Merci pour les spectateurs.
Non, la salle m'ennuie dans le travail, évidemment. Mais je comprends cette réponse, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le casting est le début du premier geste. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on peut entrevoir quelque chose de vraiment loin. Après, on a des surprises formidables, ou au contraire des déceptions, mais bon, le théâtre exige une présence longue, contrairement au plan. Évidemment, des fois il faut aider. Surtout les chanteurs ne sont pas tous habiles. Enfin, ils ont une certaine forme de. Alors, ils ont une contrainte telle avec le chant que, évidemment, il y a des défauts qui apparaissent, et c'est intéressant de travailler avec eux. Mais je parle pas forcément beaucoup, d'ailleurs.
Manu.
Finalement, qu'est-ce que ces 10, 12 années de mise en scène, Antoine Gint, vous ont appris sur la musique que vous ne saviez pas, vous qui avez tant écrit sur la musique contemporaine?
Ah, je l'ai un peu oublié déjà. Enfin, j'ai oublié de l'analyser de cette manière-là, disons. Parce qu'effectivement, je suis rentré dans une autre fabrication de moi-même vis-à-vis de la musique. Ce que j'en garde, c'est l'extrême rigueur qu'impose cette musique. Je ne sais pas si on parlera un peu de Kafka Fragment, par exemple, mais c'est un spectacle que j'ai pu faire grâce à des gens qui ont une assise, une consistance qui est très très rare et qui est formidable, quoi. Donc ça, c'est pas une grande découverte, mais dans le travail, disons que je vois bien où là il peut y avoir des flottements parce que la musique tout à coup ne serait pas au rendez-vous, quoi.
Antoine Gint, on vous a demandé de choisir un son et vous avez suggéré ce montage. Premier son. Deuxième son. Identification de ces deux sons et la raison pour laquelle vous les avez choisis, Antoine Gint.
Alors c'est un peu un jeu, mais bon, les Clash, évidemment, on les a reconnus. Ils sont cités par Sébastien Rivas dans l'opéra Aliados. C'est un moment très, très, très... passionnant de l'intervention de Thatcher. Et évidemment, c'est une référence au thatcherisme et à tout ce qui s'est passé en Royaume-Uni à ce moment-là. Et puis, le battement, la pulsation, on la retrouve chez Stockhausen dans les années 50, mais alors d'une manière tout à fait autre, évidemment, beaucoup plus atonale, on va dire ça comme ça. Alors, si vous imaginez inverser les instruments, par exemple, si vous jouez les Clash au piano, vous avez une espèce d'assise de Schubert, quoi.
Ah ouais,
vous voyez, c'est très clean et ça fait Schubert, quoi. Par contre, si vous jouez Stockhausen à la guitare électrique, alors là, c'est beaucoup plus violent que les Clash.
Vous connaissez justement les opéras de Stockhausen dont parlait Maxime Pascal tout à l'heure ?
Oui, j'ai l'âge qui me permet d'en avoir vu quelques-uns en scène. C'est...
Et des mises en scène aussi incroyables que ce dont il parlait.
Aussi cosmiques que ce dont il parlait.
Il y a un projet utopique chez Stockhausen. Tout le monde aimerait monter ces 7 journées. Enfin, c'est plus que wagnérien, etc. Bon, Rocconi qui vient de disparaître, on a monté quelques-uns avec beaucoup de faste. J'en ai vu 4, je crois, monter sur les 7. Enfin, il m'a fallu 15 ans pour les voir dispersés. Mais bon, il y a toujours une fantasmagorie, dirais-je, absolument fascinante. Et puis un kitsch assez redoutable. Voilà.
Vous, ça pourrait pas vous tenter?
Oh, je vais répondre comme Maxime Pascal. Si on me le demande demain, je dirais oui. Et puis je réfléchirai après. Hein. Alors j'attends, je donne mon numéro ou...
On pouvait. Hein, surtout que vous avez quand même eu des moments, particulièrement avec des moments de bravoure dans votre parcours. L'un de vos morceaux de bravoure comme metteur en scène et producteur, ça aurait été la version recalibrée et adaptée de l'anneau de Nibelung de Wagner par le compositeur Jonathan Dove et le dramaturge Graham Vick. Titre Ring Saga, un spectacle qui, bien que réduit, se déroulait en 3 journées. Vous rappelez d'expériences marquantes de spectacles marathon de ce type?
Ah oui, je l'ai monté, ça durait 9 heures au total. Ouais. Donc faire 9 heures de mise en scène, c'est vrai qu'il faut faire du footing. Mais j'ai un souvenir fantastique, par exemple, c'est le Faust 1 et 2 qui avait monté Peter Stein. Alors, ça durait 24 heures. Hein. Là, il fallait prendre son temps avec Bruno Gantz, c'est une distribution extraordinaire. Et c'est vrai que tout n'était pas réussi, mais l'ampleur du projet fait qu'on a une expérience personnelle, quoi, qu'on gardera toujours. Et c'est vrai que j'aime ce genre d'expérience au théâtre ou à l'opéra. Mais par exemple, l'opéra a souvent des calibres très longs, mais ce n'est pas exceptionnel pour l'opéra. Il faut aller à Bayreuth pour voir tout le Ring en entier. Autrement, on le voit relativement peu, et c'est ce qui m'avait mis en tête de monter ces 9 heures de spectacle.
Enfin, je suis tombée sur 20 secondes qui était comme un lâcher-prise, en fait, absolument romantique, et c'est magnifique.
Le 35 mm ou l'avion?
Il est capable d'écouter, en fait.
Il y a des moments où on n'entend pas une chose qui est flagrante pour les autres, quoi.
Je pense que c'est ça qui m'a attirée.
Ça, c'est clair.
Merci à nos invités, Alix Delaporte. Le dernier coup de marteau sera dans les salles dès mercredi prochain. Antoine Gint, Aliados, un opéra en temps réel de Sébastien Rivas, est à l'Opéra National de Lorraine à Nancy à partir de vendredi. Toutes les dates de la tournée sont sur le site de l'émission, ainsi que celles de Kafka Fragment de Courtag et Massacre de Mitterer. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Eh bien, chers amis, maintenant, je vous souhaite bonne chance pour le bon numéro. Nous nous retrouverons dans un mois, très exactement, le 14 février prochain. Bonsoir.
Demain, une émission télévision Je vous raconte avec Pierre Belmar, le héros de Benoît Lagan, et Hervé Adamar, Marc Époux. Ah oui, c'est ça, votre maître. Et moi alors? Votre chef.
Mon chef. Voilà.
Des annonces, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Manou Farine, Aïssat Wendoy et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfez, à la prise de son Anthony Thomasson et Élise Le, et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous êtes sur France Culture. Ah, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors, bonne soirée à tous.